France Inter. Le masque et les palmes. Jusqu'à la prochaine heure, nous allons débattre du palmarès de Cannes 2025 qui s'est clos avec cette image, celle de l'Iranien Jafar Panahi immobile, plusieurs secondes renversé sur son fauteuil, quelques secondes d'arrêt pour prendre le temps de rassembler ses esprits ou pour savourer intimement la palme d'or que le jury de Juliette Binoche venait de lui attribuer. Avec son film intitulé « Un simple accident », Jafar Panahi est le deuxième cinéaste iranien de l'histoire du festival à recevoir la palme. Cette année, le palmarès complet réunit pas moins de 8 nationalités, de la Chine au Brésil, en passant par la Norvège, et ce sont des propositions de cinéma très différentes qui ont été récompensées. Pour en débattre, depuis le studio d'Inter à Cannes, les nommés sont Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, Charlotte Garçon, des Cahiers du cinéma, Nicolas Chalère du Nouvel Obs, et une autre Charlotte, Lipinska, de Télématin. Et je vais d'abord dire coupé, puisque la 78e édition du Festival de Cannes est terminée, mais tout de suite, action pour le masque, les plumes, les prix et les palmes. S'il ne fallait en retenir qu'une, une seule image de cette 78e édition du Festival de Cannes, ce serait laquelle? Vos réponses à chacun et chacune. Bonjour d'abord à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors avant qu'on entre dans le détail de ce palmarès, ton image à toi, Charlotte, ce serait quoi? Charlotte Lipinska, je le précise, je vais dire vos patronymes à chacune.
On est deux ce matin. Alors moi, mon image, c'est Sergi Lopez dans le désert marocain avec une poignée de compagnons de route et qui dansent chacun seul dans leur coin avec un horizon à l'infini derrière. C'est le film Sirat qui a obtenu le prix du jury ex aequo, on en parlera tout à l'heure. Mais moi, c'est un film que j'ai vu en tout début de festival et je n'en suis jamais revenu, je crois.
Les festivaliers non plus. D'ailleurs.
Voilà, ce film m'a hanté. Je me suis pris mais vraiment une déflagration physique même. Je trouve le film assez tellurique. Pour moi, c'était non seulement un énorme coup de cœur, c'était une palme tout à fait possible. Et en fait, c'est incroyable de voir des films aussi forts en début de festival, parce qu'alors après, je dois bien admettre que tout glissait sur moi. Mais j'étais d'excellente humeur, parce que même quand je voyais des films que je trouvais pas terribles, je me disais, c'est pas grave, j'ai vu Sirat.
On verra si vous êtes ravi de ce festival. Jean-Marc?
Moi, c'est une jambe ensanglantée, humaine.
C'est pas mal pour commencer.
Qu'on extrait de l'estomac d'un requin, qu'une médecin légiste enlève de l'estomac d'un requin. Et c'est dans L'Agent secret de Kléber Mendoza-Filho qui a eu 2 prix. Et c'est une image très forte parce qu'elle résonne avec d'autres images du festival. On a vu beaucoup de corps amputés dans Sirat, dans le film qui a eu la Palme d'Or de Jafar Panahi, dans le film allemand en compétition, de corps dont des membres étaient atrophiés. Et je pense que ça dessine une idée d'une humanité martyrisée, que ce soit par des régimes politiques, par des romans familiaux extrêmement violents. Il y a quelque chose comme ça de fin de civilisation et d'une humanité non pas augmentée mais diminuée qui court comme ça d'un film à l'autre par tous ses membres amputés.
Alors ça, c'est une image d'un film en compétition et qui fait partie du palmarès. Est-ce que c'est ton cas aussi, Nicolas? C'est une image d'un film primé?
Je rejoins mes deux camarades. Et moi, c'était plutôt en fin de festival, le dernier jour. Il y a eu ce choc qui a été Résurrection de Bigan, le chinois Bigan. Et le film se termine sans... C'est pas un spoiler, mais il y a une image très très belle de spectateurs d'une salle de cinéma qui sont comme des torches allumées, des lumières, et qui fondent au fur et à mesure. Et là, il y a écrit « The End ». Et après, il écrit Résurrection. Et c'est exactement ce que Rebecca disait en introduction. Elle annonçait la fin du festival pour lancer le début du masque. Et c'est un peu ce que raconte Bigan, c'est que le cinéma a besoin de... Il va peut-être mourir, mais il va ressusciter. Et c'est vraiment très très beau. Et le cinéma comme vecteur de guérison, réconciliateur, est beaucoup revenu au pendant cette compétition. Et notamment, je pense au film Valeurs sentimentales de Joachim Trier, L'Agent secret aussi. Vraiment, on sent qu'il y a besoin de sauver le soldat cinéma, et c'est vraiment assez beau et cette image l'incarne vraiment de manière assez magnifique.
Charlotte Garçon?
Alors mon image, moi c'est une odeur, donc je vous prie de m'excuser par avance, c'est l'odeur de l'étron intempestif.
Bienvenue entre la jambe coupée de Jean-Marc Lalanne et l'étron de Charlotte Garçon.
On est en plein pique-nique au crépuscule, c'est très beau, d'ailleurs ça ressemble un peu à la fin de Bigan à l'envers, enfin bon, sur une plage de Sardaigne, et c'est dans l'Aventura de Sophie Le Tourneur qui a ouvert la section acide, donc une section parallèle de Cannes, et qui est un film, alors pas du tout politique a priori, très intime, très trivial. Hein. Il y a quelque chose de très spontané à ne pas encore contrôler son sphincter quand on a 3 ans, puisque c'est le petit Raoul de cette famille qui est en période de transition entre la couche et pas la couche. Mais ce qui est vraiment beau dans le cinéma de Sophie Le Tourneur, c'est qu'elle a une méthode, en fait, très très contraignante, et en même temps, elle nous donne à voir ce qu'on vit tous d'une grande humanité, y compris corporelle, mais dans ce film qui questionne ce que la parentalité fait au couple, qu'est-ce que c'est que des souvenirs de famille quand ils sont aussi triviaux et anecdotiques. Et c'est aussi une comédie que je vous recommande pour commencer vos vacances en famille, puisque le film sortira le 2 juillet.
La Ventura, donc titre de film autant que de chanson. Alors moi, je n'ai choisi ni une image, ni une odeur, mais une voix. C'est celle de Guillaume Marbeck, qu'on a découvert ici avec son premier grand rôle. Et quel rôle, puisque Guillaume Marbeck est Jean-Luc Godard dans Nouvelle Vague, le film de l'Américain Richard Linklater, qui était en compétition et qui est reparti bredouille. Mais Guillaume Marbeck donc est la voix et le corps de Jean-Luc Godard, sans verser dans le mégalo et le sérieux de la performance. Et c'est vraiment sa façon d'être, sa façon de s'amuser dans le film et à l'image de l'ensemble de ce film très charmant qui reconstitue le tournage d'À bout de souffle dans le Paris de la fin des années 50. Et voilà, c'est l'histoire d'une bande de jeunes qui révolutionne le cinéma dans la gaieté, dans une liberté totale, avec un producteur qui dit « Ces vieux croutons de Cannes ne sauront jamais apprécier le film d'un jeune cinéaste. » Alors, on commence évidemment avec le lauréat de la Palme d'Or, je rappelle son titre, Un simple accident, que son réalisateur Jafar Panahi a tourné clandestinement à Téhéran. Et là aussi, il y a d'abord un son, le grincement de la prothèse de jambe d'un homme qui marche. Et ce son s'est imprimé définitivement dans la mémoire de Vahid, parce que ce grincement est associé à son bourreau, surnommé la Guibole. Alors, après l'avoir ligoté dans son estafette, Vahid veut s'assurer d'avoir bien identifié son tortionnaire supposé. Et pour ça, il parcourt la ville pour avoir la validation d'autres victimes. Se pose entre eux la question de la vengeance. Faut-il se venger ou non d'un homme qui a brisé des vies ? Leurs engueulades et les horreurs qu'elles dénoncent n'empêchent pas Panahi d'insérer des scènes comiques dans cette épopée en estafette à Téhéran. Jean-Marc, est-ce que cette palme te ravit ?
Non, elle me ravit pas du tout, mais elle peut pas non plus m'indigner, parce que le film a tellement valeur de symbole et qu'on peut considérer à juste titre que le Festival de Cannes a un mot à dire sur la situation géopolitique du monde.
Cela dit, Juliette Binoche, en l'annonçant, a précisé que ça n'était pas pour des raisons politiques. Enfin, elle tenait à saluer le geste de cinéma.
Je pense que ça l'est quand même. et que les conditions sont tellement héroïques du film que on peut effectivement, c'est difficile de contester l'attribution de cette palme. Après, moi, ce n'est évidemment pas le film que je préfère de la compétition. Ce n'est pas non plus le film que je préfère de l'œuvre de Panahi. Je pense qu'il y a 8 ans, par exemple, Trois visages, qui avait reçu également un prix, était un film plus ouvert, plus poétique. Là, je trouve que le film est une machine scénaristique trop en place, et y compris dans sa manière, comme tu dis, d'instiller un peu de cocasserie dans ce contexte très dramatique. Je trouve que tout est vraiment... Je vois les câbles tout le temps, et je trouve que le chemin, l'itinéraire qui conduit les personnages lent vers l'accession au remords pour le bro et vers le dépassement du désir de vengeance pour les autres, et là encore extrêmement fléché, et le film est une sorte de fable pour moi beaucoup trop mécanique, et il y a trop de scénarios et pas assez d'aération par la mise en scène.
Charlotte Lipinska,
J'entends tout à fait ce que dit Jean-Marc, et en même temps je trouve que le film est d'une efficacité imparable.
Ça en fait une palme accessible.
Très accessible, avec un potentiel populaire, ce qui est quand même pas rien sur le cinéma iranien. C'est-à-dire qu'on peut se dire quand même, ils ont raté le coche l'année dernière avec Les graines du figuier sauvage, très clairement, qui avait quand même eu le grand prix. Mais là, fallait, je trouve, rattraper un peu cette bévue, et je trouve ça pas du tout indigne de le faire avec Jafar Panahi, qui en effet, par ses conditions de tournage, par le fait aussi qu'il soit là physiquement pour la première fois en 15 ans pour accompagner ses films, que Juliette Binoche, dont on connaît l'engagement pour les artistes iraniens, était présidente du jury. En gros, toutes les planètes étaient alignées.
Voilà, dès la projection.
Dès la projection, c'est
la rumeur de la palme a couru.
Il avait plié le game, quoi, d'une certaine manière. Et en effet, le film a un potentiel populaire. Moi, je le trouve très très efficace. Je vois ce dont Jean-Marc parle, d'une mécanique très en place, et en même temps, elle est accessible pour nous. Alors, il y a un petit côté quand même explications de faut-il se venger, pas se venger, la justice, pas la justice, la morale, tous les points de vue sont très clairement exprimés et comme si du coup c'était un petit abécédaire pour le public occidental de que faire dans cette situation. Donc pour moi ça manque un peu de mystère. Néanmoins, les comédiens sont formidables, son dispositif dans ce petit van qui rappelle un peu Taxi Téhéran de manière un peu plus aérée fonctionne incroyablement. Et puis quand même, là aussi, on n'en a pas parlé, mais sur une image qui reste du festival, le dernier plan du film, avec un petit bruit et quelque chose de très flore. Non, non, je ne vais pas le dire.
On ne dit rien. On va dire que c'est un éloge du hors-champ.
C'est ça. Voilà. Mais il fonctionne vraiment, il fonctionne et ils achèvent de nous convaincre que c'est quand même un très grand film qui a toute sa place au palmarès.
Et ça permet une fin ouverte. Nicolas.
Très grand film, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je rejoins un peu ce que disait Jean-Marc, c'est effectivement, on a l'impression vraiment qu'il rattrape le coup, il y avait presque on se disait c'est couru d'avance, c'est lui qui va la voir en sachant que c'était Juliette Binoche, enfin, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vrai, et on a l'impression qu'on a attendu qu'il y ait la projection pour dire ça y est, c'est la palme, comme si on aurait presque pu la prédire avant de le voir. Moi je suis un peu déçu parce qu'effectivement il y a un didactisme, je trouve, qui trahit quand même un manque d'inspiration. Après, quand on me reproche un manque d'inspiration à un homme qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a ce courage-là, cette résistance inouïe au régime des Mollahs et qui compte retourner dans son pays après avoir eu la palme. Je pense que c'est le courage de cet homme aussi qui est récompensé. Et je regrette, effectivement, je trouve que le film de Rassouloff l'année dernière le méritait bien davantage et qu'il ait eu ce prix de consolation à l'année dernière et que là on a l'impression qu'on rattrape le coup. Je trouve ça un peu dommage, mais on ne peut pas se plaindre que c'est difficile de se plaindre de récompenser Panahi qui reste un grand cinéaste.
Et toi, Charlotte, tu as la sensation aussi qu'il était question de rattraper le prix de Rassouloff l'année dernière qui n'a pas remporté la palme ?
Oui, parce qu'il fallait franchir une marche de plus. Donc mathématiquement, c'était uniquement ce prix qu'il restait à donner à un cinéaste iranien aussi engagé que Panahi. Donc on comprend, ce qui me frappe avec ce film, d'abord, c'est sa proximité avec le film de Sergueï Losnitsa, l'Ukrainien, Deux procureurs. Hein, cette idée qu'il y a toute une démarche, tout un protocole pour faire aboutir quelque chose, mais qu'en fait, l'arbitraire du pouvoir écrasant, et reste là.
Ce qui est aussi le sujet du film de Kléber Mendoza Filho.
Oui, c'est étonnant. C'est
la dictature de l'Union soviétique, la dictature iranienne et la dictature brésilienne dans la sélection officielle.
Mais effectivement, dans le didactisme très théâtral où chacun représente des modalités différentes de la vengeance, ce qui est peut-être intéressant, c'est le hors-champ de que serait une société qui politiquement parviendrait à se débarrasser de ses bourreaux. Et si la justice, la loi ou même une intervention militaire pouvait renverser, on n'en serait pas réduit à ce groupe d'individus qui sont des monsieur ou madame tout le monde, qui sont rendus à leur pulsion aussi de revanche ou au contraire leur pulsion de pardon.
D'absolution.
Voilà. D'une certaine façon, il n'y a pas de politique chez ces gens. C'est très paradoxal de dire ça, mais il y a quelque chose de très individuel aussi.
Un simple accident de Jafar Panahi sera dans les salles françaises le 10 septembre. On va passer au Grand Prix décerné cette année au Norvégien Joachim Trier pour Sentimental Value. Quelle est la place de l'art dans la vie, c'est l'un des enjeux du film, à travers le personnage d'un vieux cinéaste qui se prénomme Gustave. Ses deux filles ont grandi sans lui, mais il veut revenir auprès d'elles, en même temps qu'il veut revenir sur le devant de la scène en tournant un nouveau film. Alors il y a les liens que le cinéma a détruits dans ce film et ce qu'il pourrait recoudre aussi. Gustave est interprété par Stellan Skarsgård, j'ai bien dit, Charlotte ? Skarsgård.
Alors, on m'a dit Skarsgård. Stellan.
Et Nora est jouée par Renate Reinschwe, qui avait remporté le prix d'interprétation féminine il y a 4 ans pour Julie en 12 chapitres du même Joachim Trier. Et pendant la projection officielle de ce film, c'est vraiment, il y a eu la plus longue standing ovation du festival, je crois, soit 11 minutes. Et donc, est-ce que tu te serais levée, Charlotte Lininska,
j'étais debout. Parce que j'étais à cette projection-là, et en effet, moi, le film... Alors, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Joachim Trier, et Julie en 12 chapitres est un film qui, je pense, restera beaucoup. Là, je trouve le film aussi d'une subtilité, d'une finesse. Ça se joue beaucoup dans les regards, c'est-à-dire que même si les choses se disent, évidemment, il y a beaucoup de sous-textes, et la manière dont Stellan Skarsgård regarde sa fille Renate, et l'autre aussi, parce qu'elles sont deux, il y a une émotion, je trouve, assez bouleversante. Tous les personnages sont magnifiquement écrits parce qu'ils ont évidemment leurs fêlures, leurs blessures. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que l'éloignement de son père avec ses filles est juste expliqué par il a travaillé, il était cinéaste, enfin voilà, il s'est pas peu occupé de ses filles, mais il n'y a pas de trauma autre que celui-là. Et pendant tout le film, il y avait quand même une petite... on se demande, il y a un doute, qu'est-ce qui a pu se passer pour que la fille aînée refuse de le voir, contrairement à la cadette qui a continué à avoir des liens avec lui. Et ce mystère-là, moi, je le trouve très, très beau. Et puis... à titre personnel, franchement, Stellan Skarsgård, c'était le prix d'interprétation. Il est incroyable en cinéaste vieillissant, tentant de se racheter auprès de ses filles. Je trouve qu'il était temps de le récompenser, mais c'est un très très beau film.
Et il y a d'ailleurs aussi cette question dans le film, c'est quoi un cinéaste qui vieillit et qui retrouve ses vieux collègues alcooliques? Charlotte Garçon.
Oui, moi j'ai trouvé que, comme d'habitude, Joachim Trier était trop confiant dans la valeur sentimentale de son psychologisme. Je n'ai pas trouvé dans l'angoisse de ses héroïnes.
Pardon, dit Jean-Marc.
Une angoisse existentielle. On voit bien, forcément, on pense tous à Bergman, mais je trouve qu'on reste dans la psychologie alors que tous les signaux nous sont donnés d'une angst vraiment qui dépasserait tout ça. Et moi, j'ai juste trouvé une sorte de rachat du père un peu boomer qui est finalement quand même tout à fait attendrissant. Je suis pas d'accord qu'il n'y ait pas de trauma, puisqu'il y a un trauma dont je ne dirai rien, sinon qu'il est lié à un tabouret Ikea. Donc en fait, du trauma, il y en a dans la matière de cette famille, mais c'est un choix de mise en scène, justement, de fluidifier et de rendre lacrymal des rapports pour jouer la justesse, la finesse, voilà, tout ce qui est... Et pour moi, ça aboutit à une tiédeur que j'ai trouvé déplorable.
Je pense que ce que Charlotte appelle la tiédeur du film, c'est un peu son salut. C'est-à-dire que c'est quand même très très risqué de se mesurer à Bergman. Et effectivement, entre Sonate d'automne, après la répétition, Persona aussi, avec ce personnage qui perd la voix sur scène, enfin qui en tout cas qui a une crise de panique et qui n'arrive pas à jouer.
C'est magnifique ça d'ailleurs.
C'est sublime. Le début comédienne... où on la raccommode avec du scotch alors qu'elle s'est vraiment psychiquement disloquée, c'est vraiment magnifique.
Je précise que c'est au début du film.
C'est vraiment les deux premières minutes. Voilà. Je pense que c'est très risqué, il y a vraiment un risque d'emphase très fort, et il s'en sort par la comédie dramatique, par la psychologie, presque une forme sitcomisée, je dirais, mais cette rivalité, son art quand même de passer de choses quand même profonde et émouvante à de la comédie, son art du storytelling.
Mais les sitcoms, c'est drôle.
Ah, mais le film est très très drôle. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas.
Il y a le meilleur cadeau d'anniversaire à un enfant. C'est vraiment vu pendant le festival.
C'est une comédie dramatique aussi réussie dans son versant de comédie que dans son versant dramatique. Et je pense qu'il a un art de la direction d'acteur qui est vraiment exceptionnel aussi.
Donc, les trois sont magnifiques.
Son meilleur film, le plus ample, le plus ambitieux. Et je le trouve extrêmement séduisant.
Et c'est Nicolas Chalère qui va arbitrer les débats entre déplorable et film le plus.
Alors non. Alors moi j'aime le film, je trouve juste que le prix est peut-être un peu trop grand pour le film, mais pas trop grand pour le talent de Trier, je trouve. J'étais quand même assez charmé par le film, parce que effectivement il s'en remet beaucoup. Alors le problème de Joachim Trier, c'est qu'à chaque fois il assume son tribut aux grands anciens, c'est-à-dire Bergman, bien sûr, il y a Tchekhov, il y a des références à Tchekhov direct, puis il y a Woody Allen aussi, il y a beaucoup d'emprunts à Woody
Allen. Shakespeare, on peut même dire.
Ouais, mais voilà. Et donc du coup on a l'impression que son cinéma va être écrasé par ses références, et ce qu'il y a de beau dans ce film-là, c'est que justement, on a l'impression qu'il s'en échappe par une forme de... C'est même pas une légèreté, mais c'est une mélancolie comme ça, disloquée, qui prend forme au fur et à mesure, et grâce aussi à ses personnages et à ses acteurs. Moi, le film a vraiment gagné au fur et à mesure, et la fin est vraiment bouleversante. Et c'est un contre-pied, je trouve, assez intelligent à Julien Douze-Chapitres, qui était un film que j'aimais beaucoup, mais qui pouvait avoir un côté gadget dans l'air du temps, presque clapichien à certains moments, mais du haut de gamme. Voilà, il prend le contre-pied alors qu'il reprend la même actrice, et c'est un complément assez beau, je trouve, à son précédent film. Et voilà, je le recommande, même si je trouve que le prix est un tout petit peu trop.
Tu le recommandes, et il sera en salle, Sentimental Value de Joachim Trier, donc précisément le 20 août. On enchaîne avec les deux prix du jury ex-aequo qui consacrent une nouvelle génération de cinéastes présents dans la compétition pour la première fois. Alors on va d'abord parler de Sirat, du franco-espagnol Oliver Lakshe. Nous sommes dans le désert marocain où s'organise une rave party clandestine au milieu de la foule. Un père, Sergi Lopez à l'écran, est accompagné de son petit garçon. Il est là pour tenter de retrouver sa fille aînée disparue. Et lorsque la police vient arrêter les fêtards, le père et et le fils s'échappent pour suivre un groupe qui doit les conduire dans une autre rave et leur convoi s'enfonce dans le désert. C'est l'un des chocs, tu l'as dit au début de l'émission Charlotte, l'un des chocs du festival cette année. Le film sera en salle le 3 septembre et en plus du prix du jury, Sirat a remporté le Cannes Soundtrack qui récompense la meilleure bande originale qui est composée par le français Kang Ding Rei, Jean-Marc.
Et quelle bande originale !
Ouais. Mmh.
Bah, avant de parler du film, on peut parler du prix. Je trouve que doubler ce prix-là n'a aucun sens. Et ce film-là, Sirat d'Olivier Lacher, est tellement puissant, est un des gestes les plus forts du festival, que c'est presque annulé le fait de lui décerner un prix, qu'il soit aussi faible dans le palmarès et qu'en plus il soit partagé. Le
film est avec un film qui n'a par ailleurs rien
aucun
à
rapport
voir.
Et qui n'est pas que je trouve plutôt intéressant par ailleurs, mais qui est vraiment sans commune mesure avec la puissance d'intervention de ce film-là. C'est un film qui a une ambition très haute, on peut dire à la fois métaphysique et anthropologique, qui est vraiment de saisir l'état où en est la civilisation humaine. Donc ça peut paraître extrêmement ambitieux. Le risque de l'emphase et de la pompe est très grand. Et il imagine une forme tellement expérimentale. Il réussit à plusieurs reprises à réinventer son film en cours de projection, c'est-à-dire qu'on pense être parti dans une direction et tout à coup il y a une sorte de catapulte.
Il déjoue le film toutes change. Les attentes.
Absolument. Donc voilà, c'est une sidération perpétuelle. C'est vraiment un geste de cinéma épique, lyrique et fou. Donc voilà, c'est un des très grands films du festival.
Alors tu parlais de expérimental, geste radical, etc. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment un film qui nous happe.
Ah oui.
Charlotte Garçon.
Oui, mais c'est du cinéma forain, donc faut être voilà. Oui, ça pétarade de partout. On marche un peu sur des œufs d'ailleurs en parlant. Voire sur autre chose, parce qu'on risque toujours de déflorer, enfin d'amortir la sidération. Moi, je n'y ai
pas... Et ce serait fâcheux.
Voilà, je n'aime pas quand on me tape dessus trop fort, en fait, je crois, au cinéma. Et donc, pour moi, ce que Sirat partage avec l'autre film, le film allemand Sound of Falling, c'est cette lourdeur, en fait. C'est ce côté impactant, violent, cette violence faite au spectateur que parfois, moi, je prends pour une forme de sadisme. Donc, ce spectacle-là, métaphysique, à la fois trop abstrait et trop concret dans le choc physique qu'il propose, je suis restée en dehors.
Je pense qu'on est quelques-uns peut-être dans ce studio à être masochistes. Nicolas.
Ah mais moi c'est aussi pour ça que j'aime le film. Enfin moi je ne fais pas grise mine si j'ose dire. Bon, comprendra qui pourra. Non, moi je trouve le film formidable parce que effectivement il se rejoue constamment. C'est à la fois le convoi de la peur, le salaire de la peur, Mad Max et en même temps c'est Jerry de Gus Van Sant. C'est à la fois effectivement contemplatif et complètement un film à spectacle, mais qui intègre de manière assez brillante le spectacle à son propos et à sa symbolique. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il cristallise quelque chose de l'époque, à la fois de cette sensation de troisième guerre qui va éclater, qui comme ça par
qu'on entend autour, par la radio.
On entend par la radio ces gens qui essaient de former une communauté, de se soutenir en parallèle, en marge de ce qui se passe, de cette fin du monde annoncée.
Il faut préciser aussi que c'est une bande de frics.
C'est une bande de frics, exactement.
C'est important.
C'est une famille réelle et une famille recomposée. C'est un film qui à la fois et qui marche au sensoriel et effectivement à une forme de contemplation et en même temps qui est carbure au fuel sentimental, si j'ose dire. Vraiment, moi ça m'a bouleversé. J'étais en larmes et je me disais mais comment il va se sortir de ce qui du choc qui me provoque. Et ben il s'en sort parce que à chaque fois sur un fil, et d'ailleurs le fil Sirat veut dire c'est le fil entre l'enfer et le paradis dans le Coran, je crois. Et voilà, il y a ce souffle poétique, et je crois qu'il est très marqué par la spiritualité soufiste, le réalisateur. Et donc, je pense qu'on ne saisit même pas toutes les symboliques qu'il y a derrière le film. C'est vraiment un film absolument fascinant et passionnant, et pour tous les publics. Ce n'est pas du tout un geste voilà, hermétique.
On termine sur Sirat avec toi, Charlotte. On a déjà parlé au début.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon choc du festival, mais je ne suis pas du tout d'accord avec Charlotte. C'est-à-dire que oui, il y a des événements forts qui se passent dans le film, mais moi, j'étais aussi happée par l'humanité, la solidarité de cette poignée d'individus qui tentent de faire communauté dans cette ambiance de fin du monde. Donc moi, j'y ai vu au contraire quelque chose de très doux, paradoxalement, alors qu'on est quand même sur une musique électro assez tendue du début à la fin, et qu'en dehors des événements puissants dont je parlais, enfin voilà, qu'on ne va pas déflorer, au contraire, je trouve qu'il y avait quelque chose d'extrêmement généreux dans le petit groupe. C'est des individus qui n'ont rien à faire ensemble et qui pourtant vont faire chemin ensemble. Et par ailleurs, moi je ne parlerai pas du tout de frics, parce que bah ok, ils sont tatoués, mais c'est des gens qui ont décidé de vivre en marge.
large,
qui, sont pas que qui ont décidé de vivre l'instant présent et à qui on demande bah, est-ce que tu seras à la prochaine fête ? Je sais pas, on verra demain. Et je trouve ça assez beau, moi aussi, des gens qui vivent comme ça. C'est clairement le choc du festival.
Et donc, je rappelle, hein, Cyrate de Oliver Lachey sera en salle le 3 septembre. Donc, la lauréate ex aequo qu'on a déjà évoquée de ce prix du jury, c'est l'Allemande Masha Chilinski. Elle était en compétition pour son deuxième film, Sound of Falling, qui se déroule dans un lieu unique, une ferme du nord de l'Allemagne, où Masha Chilinski tisse les histoires de quatre jeunes filles à quatre époques différentes, entre 1910 et les années 2000. Donc, deux prix ex aequo pour deux films très très différents. Et on a déjà dit deux mots, pas spécialement emballés, Charlotte Garçon.
Alors, c'est encore l'histoire d'un lieu, après le film de Trier, Valeurs sentimentales, où c'était quasiment la maison qui racontait l'histoire. J'aime assez l'idée que le décor porte l'empreinte, soit une sorte de palimpseste d'endroit, de lieu où réécrire des histoires. Après, c'est vrai que j'ai eu l'impression que le découpage du film, un montage alterné entre les époques, etc., était comme un jeu de cartes qu'on battait plutôt pour créer du choc que véritablement des liens entre les différentes époques. Donc je suis un peu circonspecte. Par contre, ce qu'on ressent fortement, c'est la violence faite aux femmes dans tout le film et à travers les générations. Ça, c'est efficace de ce point de vue-là.
Nicolas ?
C'est intéressant parce que l'héritage de la douleur, notamment féminine, c'est vraiment un thème qui est revenu pendant tout le festival. C'est une espèce d'héritage d'idée de la mort qui hante ce film, que moi j'ai trouvé assez fascinant parce qu'on n'arrête pas de jouer avec lui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son chemin à l'intérieur. Elle passe d'une temporalité à l'autre sans aucune indication. Même les personnages qui vieillissent, on essaie de raccorder les acteurs et de savoir qui est qui. Donc ça crée une espèce de jeu comme ça interactif avec le film qui est assez fascinant. Film qui est à la fois anneukien dans sa lourdeur et malikien dans sa grâce. Il y a vraiment comme ça, je trouve qu'il y a un geste vraiment formel assez intéressant que je trouve très beau. Je regrette vraiment la dernière demi-heure qui s'enfonce qui accumule un peu les drames un peu choc et le film n'est pas aussi subtil que ça, mais en le voyant, je me suis dit, il va finir au palmarès et c'est le cas.
J'aimerais qu'on écoute le point de vue lalanien.
Oui.
Moi, j'aime plutôt le film. J'ai beaucoup pensé au film de Trier aussi, sur la façon dont un lieu regarde un siècle d'histoire d'un pays et un siècle d'histoire familiale. Mais c'est l'inverse du Trier, dans le sens où Trier, son art, c'est vraiment la rupture, changer de tonalité d'une scène à l'autre. Là, la limite du film, c'est que toutes les scènes se ressemblent un peu. C'est une sorte de kaléidoscope. C'est vraiment le montage qui fait le film. Et quel que soit ce qui se passe, on est toujours dans ce même univers un peu ouaté qui malgré tout, est extrêmement agréable sensoriellement, c'est-à-dire que le film est une sorte de plasma dans lequel on se sent assez bien, mais il y a quelque chose d'un peu invertébré dans sa forme, ça pourrait durer plus ou moins, ça changerait pas grand-chose. Je pense que le film n'a pas complètement trouvé sa forme, mais je le trouve assez prometteur et touchant.
Charlotte.
Et oui, il n'a pas trouvé sa progression narrative, c'est-à-dire que c'est très très beau quand même, on ne l'a pas dit visuellement, en tout cas l'époque la plus ancienne qui est, on va dire en gros, le fin 19e début 20e, c'est assez sublime à voir visuellement, mais moi ce jeu qu'elle nous propose, au bout d'un moment j'avais plus du tout envie de jouer, c'est-à-dire que les quatre époques qui s'entrecroisent, où on ne peut pas s'empêcher de chercher, mais alors cette dame âgée, c'était la petite fille d'avant, qui est la mère de qui a grandi, pour trouver en quoi la vie de l'une fait écho ou prend racine dans celle de l'autre. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire. Le film est quand même très long, mais je vous rejoins sur un peu la beauté, la proposition, mais elle n'a pas encore trouvé son film, quoi.
Pour le moment, donc, aucune date de sortie n'est précisée hein, pour The Sound of Falling.
Elle va remonter.
Pour Sound of Falling, pardon, de Masha Chilinski. On va parler maintenant du bien nommé prix spécial. Spécial parce qu'il salue un film ovni, réalisé par Bigan, cinéaste chinois de 36 ans, qui a été sélectionné pour la compétition In Extremis. La légende raconte qu'il a même fini le montage après l'ouverture du festival. Le film s'intitule Résurrection et c'est un rêve qui se déploie sur un siècle dans tout l'imaginaire et la grammaire du cinéma depuis Méliès. L'une des entrées dans ce rêve, par exemple, se fait grâce à un projecteur fiché dans le dos d'un des personnages. Nicolas.
Eh ben, j'ai pas très bien compris quand Juliette Binoche lui a remis le prix. Elle a dit, nous avons vu un film exceptionnel. Est-ce que ça vous inclut que tous les autres ne l'étaient pas, alors que c'est le plus petit prix? Déjà, là, il y a une incohérence. D'après ce qu'on a compris après la conférence de presse, c'était un peu la seule dans le jury à vouloir primer le film. Ce qui, pour moi, est une aberration. C'est-à-dire que vraiment, ce film, c'est le genre d'objet de cinéma qu'on attend dans un festival, qu'on découvre à la fin, malheureusement pas dans le meilleur état pour l'appréhender, l'apprécier.
C'est le film le moins accessible du palmarès.
Et en même temps, tellement stimulant, tellement beau, tellement généreux et dans sa forme et de réaffirmer comme ça la puissance du cinéma. Alors tous les n'est pas réussi, mais quand même il y a plusieurs films dans le film. C'est ça qui est beau, c'est qu'il change les textures, il change les époques. C'est un voyage onirique et sensoriel à travers l'histoire du cinéma, l'histoire de la Chine et l'histoire de personnages qui sont des sortes de vampires qui traversent les époques comme ça. Et vraiment les 20 dernières minutes qui sont un plan séquence, mais je m'en remets pas encore, je ne sais pas comment il a réussi, et ce n'est pas qu'une performance, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce plan séquence, il raconte le pays, il raconte des amants romantiques, on se croirait presque chez Carax, à un moment, vraiment, c'est assez beau, il raconte la pop culture qui écrase la mémoire du pays, enfin bon, là, c'est un film vraiment passionnant, qui est plein de récits différents, on pourra parler après avec le film brésilien aussi, de cette générosité du récit, enfin voilà, je trouve qu'il faudra aller le voir quand il sortira, parce que c'est un objet incroyable.
Charlotte.
Oui, c'est la mort du cinéma. Enfin, moi, je pense que c'est le prix des 130 ans du cinéma, oui, inventé en 1895, dans un festival dirigé par le directeur de l'Institut Lumière. Donc, c'est raccord de ce point de vue-là, mais j'ai un peu eu l'impression...
Le directeur de l'Institut Lumière étant Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, pour resituer les choses.
Oui, merci, pardon. Et ce film à épisodes, c'est un peu comme quand quelqu'un vous raconte ses rêves. Il y a des beaux pans, il y a des belles images. On aurait pu ouvrir l'émission sur plusieurs des images... Ouais. De ce film. Après, j'ai pas été très convaincue sur cet effet un peu de griller les cartouches du cinéma pour nous dire qu'il renaît à la fin. En fait, c'est ce que font quasiment tous les films. Enfin, on parlait de Carax, Holy Motors, c'était déjà ça. Donc, cette idée que le cinéma est mort, vive le cinéma, n'est pas en soi une nouveauté. Il y a quelque chose aussi dans ce film à trouver. Il y a des choses à ramasser, mais je trouve que ça donne aussi cette impression de rush dont on parlait pour le film précédent, bizarrement.
Jean-Marc, pour terminer, je crois que ça a été un choc pour toi.
Je suis un peu choqué par ce que vient de dire Charlotte.
J'aime choquer Jean-Marc au réveil.
Je trouve le film génial, c'est l'expérience la plus forte du festival. Et dire que c'est un film de cinémathèque et de gestion de patrimoine me semble assez injuste. C'est comme si c'était une exposition effectivement sur 130 ans de cinéma, mais totalement réinventée, restimulée par une scénographie géniale. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à Carax et à Holy Motors, sur ce côté traversé comme ça de toute l'histoire du cinéma, mais dans les formes les plus contemporaines qui soient aujourd'hui. Et j'ai jamais eu autant l'impression qu'un film réussissait à la fois la psychanalyse du cinéma et comme forme, comme histoire culturelle d'un moment, et la psychanalyse de ce qu'est un spectateur. Et moi, le film, de ce point de vue-là, me bouleverse absolument.
Jean-Marc Lanal a été psychanalysé pendant près de 2h40, donc ce qui fait long la séance, et en tout cas,
il a ressuscité
la sortie en salle de Résurrection, réalisée par Bigan, n'est pas encore précisé pour la date. On passe au prix de la mise en scène qui va nous permettre de parler aussi du prix d'interprétation masculine, puisque l'agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho a raflé les deux. L'acteur lauréat, c'est Wagner Moura, notamment connu pour son rôle de Pablo Escobar dans la série Narcos. Dans l'agent secret, Wagner Moura est Marcelo, un homme en fuite dont le passé se révèle par bribes. Nous sommes au nord du Brésil, à Recife, en 1977, sous la dictature militaire, et le cinéaste Kleber Mendonça Filho met en scène la menace et la paranoïa du quotidien en convoquant l'esthétique des thrillers des années 70 et cinéma populaire aussi, puisque dans l'agent secret, il est notamment question des Dents de la Mer. Charlotte.
Alors, moi j'aime beaucoup le film qui déjà est dans des images, des couleurs très saturées, c'est assez lumineux, c'est-à-dire ça nous raconte quelque chose de très noir, mais très étonnamment le film est, il y a quelque chose de lumineux, c'est quand même, il y a le Brésil, il utilise beaucoup aussi la musique brésilienne des années 70 qui forcément nous mettent un peu en joie, et je trouve que la manière dont on suit ce personnage, dont on ne sait jamais vraiment au début ce qu'il fuit et pourquoi
ce qu'il est arrivé,
menacé,
ouais.
Et très belle. Alors là aussi, Mendoza Filho, il s'amuse avec les codes du cinéma parce qu'il y a du split screen, il y a un côté comme ça, hommage au cinéma des années 70 avec ce grain.
Gore.
Voilà, il y a du gore. Jean-Marc parlait tout à l'heure de la jambe dans le requin, parce que les dents de la mer est un peu le fil rouge de ce film, étonnamment. Le film est porté par Wagner Moura, qui est formidable. Et je trouve assez belle et surprenante la manière dont Mendoza Filho met en scène l'écho de ce qui s'est passé au présent, c'est-à-dire que ça surgit dans le film quand on ne s'y attend pas forcément beaucoup, et avec cette chose assez belle de la mémoire de tous ces gens sacrifiés, oubliés des années 70. Qui va s'en souvenir? Qui va encore raconter ces histoires-là? Ben, il le fait de manière admirable.
Nicolas?
Oui, mais moi je considère que Mendoza Filho est un des plus grands cinéastes qu'on ait aujourd'hui, parce qu'il a une générosité de... C'est un ancien critique de cinéma et de musique, et il a cette générosité de partager ce goût pour le cinéma, de toujours raccorder le cinéma à l'histoire de son pays, de toujours raccorder le pouvoir fantasmatique et historique du cinéma, ce qui est très très beau. Il y a un cinéma, une salle de cinéma qui est centrale dans le film, qui est un vrai cinéma de récif, donc il racontait dans son documentaire précédent... Et il y a comme ça une idée des fantômes de l'histoire qui s'incarnent dans des lieux, et en même temps qui sont des lieux vivants, puisqu'il les filme en 77, il les recrée, et qui, on voit ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de... C'est très généreux, on pourrait nourrir...
Il n'oublie pas la dimension du divertissement.
Mais... On pourrait nourrir plus une série entière avec les sous-intrigues et les personnages, et il a ce don de l'ellipse cinématographique qui est absolument bouleversante. Pour moi, c'était une de mes palmes.
Jean-Marc.
Oui, c'est vraiment magnifique. Le récit est totalement luxuriant. C'est une jungle où on se perd et en même temps on est complètement fasciné par l'esthétique du film. Et ce qui est très beau, c'est qu'il filme à la fois une société ignoble, mais un monde extrêmement désirable parce que c'est celui de son enfance. Et il y a quelque chose que je trouve que dans certains Tarantino, comme Jackie Brown, sur la capacité à rendre un monde sensible, la chromie d'une époque, son étoffe vraiment, moi dès cette petite coccinelle jaune, cette voiture, ouais. J'étais amoureux du film.
Qui ouvre le film sur la couleur. Dans une station service.
Une grande sensualité, il faut le dire aussi. Le carnaval, le Brésil est là, quoi. C'est ça qui est beau aussi.
Charlotte.
Oui, c'est aussi cette sensibilité qui m'a marquée au niveau de tout ce que vous avez décrit, cette esthétique-là.
C'est le film du palmarès qui t'a plu, alors.
Il aurait pu s'appeler Les Bruits de Récif, d'ailleurs, qui est le titre de son premier long métrage qu'on avait découvert au Festival des Trois Continents. Et effectivement, ça m'a semblé être le film le moins punitif de cette compétition. Le moins didactique aussi, parce qu'il y a ce personnage central joué par Wagner Moura, et que finalement cette sensibilité-là que vous localisez dans les sens, dans le côté esthétique, elle est en fait dans l'affection, dans des liens de famille qu'il a, ce fils avec qui il n'arrive pas à être, son épouse dont on va comprendre le destin,
les amis aussi.
Sa mère, parce qu'il recherche dans les archives une trace de sa mère, et puis ces deux personnages un peu de grands-parents qui sont un peu de, une vieille dame qui s'appelle Donna Sebastian, qui est une activiste en fait octogénaire, et un projectionniste qui rappelle là son précédent film sur les cinémas, et je trouve ça très beau cette en fait ce lien affectif qui n'est apparent que après, qui décante après la vision du film.
L'agence secrète de Kléber Mendoza Filho sortira en salle le 14 janvier 2026. Le Festival de Cannes, c'est aussi le couronnement d'artistes qui viennent de vivre leur toute première expérience de cinéma, La Preuve, avec le prix d'interprétation féminine décerné à Nadia Meliti, cette femme de 23 ans, repérée grâce à un casting sauvage et de tous les plans de la petite dernière d'Afsia Herzi. Le film est adapté du roman autobiographique de Fatima Das, l'histoire d'une lycéenne musulmane tiraillée entre sa foi religieuse et son désir pour d'autres femmes. Je précise que La Petite Dernière a aussi remporté la Queer Palm, présidée par Christophe Honoré. Mais parlons de Nadia Meliti. Jean-Marc.
Bon, Nadia Meliti, elle est vraiment formidable, c'est une révélation. Elle a une présence très singulière, et en même temps on se dit aussi qu'on a envie de la revoir. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi la promesse d'une actrice, pas seulement un tempérament qu'on découvrirait dans ce personnage-là. Moi, ce qui me touche dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'Afsia Herzi, qui est née au cinéma comme actrice chez Abdelatif Kechiche, a compris et ressenti très fortement quelque chose du cinéma à l'intérieur du Sésame qui est chiche, qu'elle en a retenu quelque chose, mais pas tout. Et que c'est précisément dans cette sélection qu'elle
a retenu le meilleur.
Voilà, elle a retenu le meilleur, c'est-à-dire la capacité à incarner une scène, à rendre tout ce qu'elle filme extrêmement vivant.
Et sensuel.
Une justesse du regard, une sensualité, absolument. Et en même temps, il n'y a aucun passage en force chez elle. Il y a vraiment une douceur, une empathie, quelque chose, un art de la nuance qui n'est pas la plus grande qualité du cinéma de Kechiche, qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc le film est très réussi et très beau. Je suis content qu'il soit au palmarès. Je suis content pour son actrice. Il aurait pu aussi avoir un prix de la mise en scène, par exemple.
Charlotte,
oui,
garçon.
C'est vrai qu'on l'a, c'est une découverte. On a tout de suite, une fois le film vu, on s'est dit que cette femme devait rester actrice, Nadia Meliti. Et Cannes est connu pour sacrer acteurs des non-acteurs, des non-professionnels. Donc on espère qu'elle va continuer. Et moi, j'avoue que c'est
très gros débutant. Ouais.
Oui, c'est ma larme pendant le palmarès de voir la relation entre ces deux femmes dans la salle, la façon dont était émue aussi la cinéaste. J'ai senti une sincérité, parce que souvent, ils pleurent parce qu'ils sont un peu déçus de ne pas avoir le prix suprême, il faut bien l'avouer. Et là, on a senti quelque chose, elle est comprise en tant que très grande directrice d'acteurs et d'actrices. Donc j'aime beaucoup, moi, les scènes qui sont des temps morts, des scènes qui ne sont pas utiles au récit, qui ne sont pas des grands enjeux, mais qui sont la circulation de la parole dans cette on ne dit pas une sororité, mais une fratrie, cette fratrie de sœurs avec la mère. Le film me convainc plus d'ailleurs là que dans des scènes à enjeu.
Nicolas.
Mais c'est ce qui est vraiment beau dans le film. Moi, c'est le seul prix du jury officiel avec lequel je suis raccord, même si j'apprécie les autres films, mais pas dans les bons prix. Parce que là, il y a vraiment l'idée. Ce qui est très beau, c'est une sorte de passage de relais et presque de transmission entre une réalisatrice et son actrice. On a l'impression qu'elle lui dit tu vas être moi pour après. Et même dans sa direction, elle a quelque chose comme ça qu'on retrouve de Herzi, c'est-à-dire une espèce de mystère, de force fébrile, de détermination. Taiseuse, il y a quelque chose de buté un peu dans son personnage, mais qu'elle incarne vraiment différemment, parce que c'est pas le même physique, c'est pas le même corps, et on a l'impression vraiment de voir une petite sœur qui naît sous la direction de sa mère, et ça c'est assez beau, donc on a hâte de voir la suite. Moi je retiens
les scènes effectivement entre la mère et la fille,
c'est vraiment ça, c'est la scène de finale qui nous emporte. Moi le film, j'étais un petit peu plus déçu par rapport à ses promesses de son premier film, Tu mérites un amour. Voilà, elle a trouvé un style, elle en fait presque un classique, et j'y vais pas dire un académisme, c'est un peu violent, mais je trouve, voilà, le film est fort et très beau, et notamment beaucoup grâce à ça.
En tout cas, prix d'interprétation à Cannes, ouais, pour son troisième long métrage, et puis César de la meilleure actrice dans la même année quand même pour
Avzia, une évolution
pour Avzia Herzi.
Très cohérente, très progressive, c'est assez beau.
Bah oui, Charlotte, ça y est, que maintenant il faut compter sur elle comme vraiment une réalisatrice très affirmée. Nicolas parlait d'un certain académisme, moi je suis pas d'accord. Vous avez aussi parlé de la douceur du film. Alors oui, Nadia Meliti, elle est formidable, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades, et effectivement avec aussi un jeu qui rappelle celui d'Afsia Herzi, qui est parfois presque un jeu blanc, il y a une sorte d'opacité, elle observe, elle est opaque, et en même temps elle va peu à peu s'ouvrir à elle-même. Mais moi je trouve quand même le film assez gonflé, c'est-à-dire que politiquement quand même ça dit beaucoup de choses, puisque cette jeune fille est musulmane.
Et lesbienne.
Oui, mais pratiquante, croyante, oui. Et elle est perturbée par l'élan de ses désirs qu'il apporte vers les femmes. Et je trouve que peut-être ce film a le point de montage qui m'a le plus sidérée, tellement je le trouve gonflé, à savoir après une scène de sexe, ou en tout cas de désir assez clairement exprimé entre deux filles, et le plan d'après
sur la mosquée de Paris.
Voilà, elle est à la mosquée, il y a un long comme ça, travelling très phallique sur la mosquée de Paris, ouais. Et cette jeune fille cherche du réconfort auprès d'un imam, ou cherche à comprendre ce qui lui arrive en disant
«
je viens pour une copine qui ?» Et là, on est quand même sidéré. Je trouve ça hyper gonflé.
C'est vrai que c'est
bravo
l'un des plans signatures de ce film, La petite dernière d'Afsia Herzi, dont la sortie est prévue pour le 1er octobre prochain. On termine avec le duo qui affiche le CV cannois le plus prestigieux au monde, dont deux palmes d'or et deux prix d'interprétation, entre autres. Cette année, ils sont lauréats du prix du scénario. Je veux évidemment parler des frères Dardenne, qui étaient en compétition pour la 10e fois avec Jeune Mère au pluriel, trace le parcours de 5 femmes, mineures pour la plupart. Elles trouvent refuge dans ce qu'on appelle une maison maternelle, où le personnel les aide à faire leur choix, à savoir devenir mère ou devenir mère de leur enfant ou le confier à cet enfant à une famille d'accueil. Et c'est un changement dans l'écriture de Luc et Jean-Pierre Dardenne, puisqu'avec ce film, le scénario ne se concentre pas sur un seul, mais sur 5 personnages. Jean-Marc.
C'était assez amusant de les voir recevoir leur énième prix, parce qu'on avait le sentiment qu'ils n'étaient pas à fond, enfin qu'ils étaient limite blasés, et surtout ils ont pris une distance avec le prix qu'ils ont reçu pour rendre plutôt hommage
à leur comédienne.
Voilà. Et effectivement, je ne sais pas, même s'il y a un art du tressage narratif très très au point dans leur film qui rend absolument pertinent de récompenser le scénario, c'est quand même aussi sur la mise en scène et sur la direction d'actrice que le film est vraiment très fort. Je pense que cette modification dans leur conception du récit, ce côté très choral, change la nature des émotions de leur cinéma et redonne vraiment un coup de fouet à un système qui était un peu routinier ces 10 dernières années. Je pense que c'est leur plus grand film depuis une vingtaine d'années.
Charlotte, garçon.
Je pense à peu près l'inverse, c'est-à-dire que je trouve que ça diffracte au contraire. Moi, j'aimais leur film avec une actrice très forte, notamment par exemple Adèle Haenel, qui était mise plongée comme une expérience dans des situations quasi documentaires ou pseudo-documentaires. Et là, c'est l'inverse, et je trouve que, y compris la direction d'actrice, est assez faible.
Quelques mots pour terminer, Charlotte sur...
Oui, moi, j'aime beaucoup leur cinéma, mais pour moi, c'est les cinéastes de l'urgence, parce que toujours les protagonistes sont dans l'urgence de résoudre un problème généralement grave, douloureux. Là, il n'y a plus ça. Effectivement, ce récit choral change un peu la donne. Et le problème, l'avantage d'un récit choral, c'est que ça embrasse tout un sujet avec toutes les situations possibles de ces jeunes filles. Mais le risque aussi, c'est qu'on ne ressente pas la même empathie pour toutes, ou en tout cas la même affection, et qu'il y ait quand même une inégalité de jeu. Et autant j'en trouve 2-3 vraiment formidables, autant d'autres je les trouve beaucoup plus faibles en jeu, et donc il y a une sorte d'inégalité comme ça dans mon rapport au film qui fait que voilà, c'est assez particulier, mais c'est un peu comme un zoom, un plan large de l'enfant en fait, qui traitait déjà ce sujet resserré sur un couple. Là, elles sont plusieurs.
Alors, je te pose pas la question, Nicolas, parce que toi, t'as pas pu le voir, mais je te précise, comme à vous toutes et tous d'ailleurs, que le film est en salle.
À cause d'une coupure d'électricité.
À cause d'une coupure d'électricité.
Ah bon, il y a une coupure, c'est dingue.
Avec, pourvu que ça tienne. Hein. Avec le palmarès du Festival de Cannes, 8 films étaient au programme du Masque et des Palmes. 8 films comme autant de promesses pour les mois qui viennent. Merci à vous quatre, Jean-Marc Lalanne, Charlotte Lipinska, Charlotte Garçon, Nicolas Chalère. Merci d'avoir participé à cet épisode spécial. Je vous laisse piquer un sprint jusqu'à la gare avec vos valises à roulettes. Le Masque revient sur la scène du Théâtre de l'Alliance Française la semaine prochaine, le vendredi 30 mai, pour parler de livres et de films. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume, et c'était avec Marie Potier ce matin. Merci à Perrine Malinge et Ilinka Negulesco pour la préparation de l'émission. Ma bande et moi vous retrouvons la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.